Bonjour à chacun. Ce matin, je veux poursuivre dans tout ce qui a déjà été dit. Vraiment, on va entendre encore parler de Jésus. Mais avant d'aller vraiment dans le texte, j'aimerais commencer par vous raconter une partie d'une discussion que j'ai eue récemment avec quelqu'un beaucoup plus âgé que moi. Et donc c'était à table, comme souvent on a des discussions à table. C'était il y a vraiment quelques mois et cet ami, c'est vraiment un ami malgré la différence d'âge. Et donc à table, je lui disais que j'ai appris pas mal de choses en fait, parfois dans la douleur, des moments qui sont pas toujours très agréables. Que j'ai appris aussi des choses parfois avec des échecs et que parfois je trouve que ça pourrait être évité. Tout simplement si quelqu'un me disait quelque chose, si quelqu'un me disait que voilà, qu'il ne fallait pas faire vraiment comme ça, etc. Et en fait, il m'a écouté et ensuite il m'a regardé et puis il m'a posé une question. Qu'est-ce que tu as appris sans être dans la douleur? Qu'est-ce que tu as appris sans que ça soit dans la douleur? Cette question m'a fait réfléchir et j'ai répondu par un grand silence. Alors, je crois qu'il est exagéré de dire que nous pouvons apprendre des choses qu'au travers de moments douloureux d'échecs. Je pense que nous pouvons apprendre des choses autrement. Mais c'est vrai que par l'échec, au cœur de l'échec et après l'échec, nous pouvons apprendre des leçons essentielles pour notre vie parfois. Et le texte que nous allons lire, c'est un texte qui nous raconte un échec. Un échec des disciples de Jésus. Et par cet échec, ils vont apprendre quelque chose de très important. Et nous aussi, ce matin, on va l'apprendre. Je vous propose qu'on lise. Vous pouvez suivre avec moi ici. Donc, on va lire un texte qui se trouve dans l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, à partir du verset 14. Évangile selon Marc, au chapitre 9, à partir du verset 14. Donc, encore une fois, pour ceux qui veulent suivre avec moi, c'est possible, avec le texte qui s'affiche derrière moi. Je vais donc lire l'Évangile selon Marc, au chapitre 9, à partir du verset 14. « Lorsqu'ils revinrent vers les disciples, ils vinrent autour d'eux une grande foule et des spécialistes de la loi qui discutaient avec eux. Dès que les gens virent Jésus, ils furent surpris et accoururent pour le saluer. » Il leur demanda, « De quoi discutez-vous avec eux ?» Un homme de la foule lui répondit, « Maître, je t'ai amené mon fils qui a un esprit muet. Partout où l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre, l'enfant écume, grince des dents et devint tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Génération incrédule, leur dit Jésus, « Jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter? Amenez-le-moi. » On le lui emmena. Dès que l'enfant vit Jésus, l'esprit agita avec violence. Il tomba, il se roulait par terre en écumant. Jésus demanda au Père, « Depuis combien de temps cela lui arrive-t-il ? » ?»« Depuis son enfance, répondit-il. » Et souvent, l'esprit l'a jeté dans le feu et dans l'eau pour le faire mourir. « Mais si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours, aie compassion de nous. » Jésus lui dit, « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Aussitôt, le père de l'enfant, en larmes, s'écria, « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Voyant accourir la foule, Jésus menaça l'esprit en lui disant, « Esprit muet et sourd, je te l'ordonne, sors de cet enfant et n'y entre plus. » L'esprit sortit de l'enfant en poussant des cris et en le secouant très violemment. L'enfant devint comme mort, de sorte que beaucoup disaient qu'il était mort. Mais Jésus le prit par la main, le fit lever et il se tint debout. Quand Jésus entra dans la maison, ses disciples lui demandèrent en privé, « Pourquoi n'avons-nous pas pu chasser cet esprit ?» Il leur dit, « Cette espèce-là ne peut sortir que par la prière. Et beaucoup de manuscrits ajoutent dans ce texte et par le jeûne. C'est pour ça que c'est entre crochets ici. Cette histoire nous montre clairement que nous devons croire en Jésus si nous voulons voir sa puissance. Juste avant ce texte que nous venons de lire, trois disciples de Jésus ont assisté à un spectacle extraordinaire. Ils ont vécu une expérience surnaturelle qu'on appelle généralement la transfiguration. Ça veut dire que Jésus a littéralement changé d'apparence et ses trois disciples en haut d'une montagne ont pu voir la gloire, la divinité et la puissance de Jésus d'une manière vraiment incroyable. Après cette expérience, la seule chose que les disciples, que ces trois disciples pouvaient dire, c'est que Jésus est le Fils de Dieu. Jésus est Dieu, plus aucun doute, après une expérience comme celle-là. Jésus, au travers de cette expérience, voulait vraiment leur faire comprendre qu'il est vraiment puissant pour vaincre la mort et revenir à la vie. Jésus voulait qu'ils croient à sa puissance quand il leur disait qu'il allait mourir et qu'il allait ressusciter. Jésus, on le sait, avait 12 disciples. Donc, pendant que 3 étaient en haut d'une montagne en train d'assister à un spectacle extraordinaire, certains n'étaient pas là. Les 9 autres n'étaient pas là. Et eux, au lieu de voir la gloire de Jésus, la divinité de Jésus, au lieu de voir la puissance de Jésus, ils font face à un échec total. C'est ce que nous venons de lire. Quand Jésus est descendu de la montagne avec Pierre, Jacques et Jean, il s'est approché des autres disciples et il les a vus entourés d'une foule. Il les a vus en train de discuter avec cette foule et les spécialistes de la loi. Ce sont des responsables religieux juifs. Et la foule, comme nous dit le texte, elle a été surprise par l'arrivée de Jésus. Et qu'est-ce qu'elle fait? Elle va voir Jésus pour le saluer, mais aussi sûrement pour chercher une solution. Parce que les disciples, ils n'ont pu rien faire face à ce démon violent qui essaye de tuer l'enfant depuis son jeune âge. Il est facile de supposer le sujet de discussion des spécialistes de la loi et de la foule avec les disciples. Il parlait bien évidemment de l'échec qui était douloureux pour les disciples. Nous pouvons vraiment imaginer les spécialistes de la loi en train de se moquer des disciples parce qu'ils n'avaient pas pu chasser ce démon. En arrivant sur place, Jésus va vite comprendre la situation. Quand le père de l'enfant s'adresse à Jésus et lui dit « Maître, je t'ai emmené mon fils qui est un esprit muet. Partout, l'esprit s'empare de lui, il le jette par terre. L'enfant écume, grince des dents et devient tout raide. J'ai prié tes disciples de chasser l'esprit et ils n'ont pas pu. » Juste après ces paroles du père, Jésus fait un reproche à ses disciples. Il fait aussi un reproche à toute cette foule et aux spécialistes de la loi qui sont présents. Il leur dit « Génération incrédule, jusqu'à quand serai-je avec vous? Jusqu'à quand devrais-je vous supporter ?» Je ne sais pas vous, mais ce reproche, je le trouve assez dur. Mais en fait, quand on sait vraiment tout ce qu'ils ont déjà vu, quand on sait que Jésus a agi avec puissance au milieu d'eux depuis bien longtemps, ce reproche est tout à fait normal. Une des précédentes prédications que j'ai faites sur l'évangile selon Marc avait le titre suivant « Jésus montre sa puissance pour que ses disciples lui fassent confiance ». Jésus a montré à plusieurs reprises sa puissance. Jésus a fait de nombreux miracles, mais malgré tout cela, ils n'ont pas foi dans sa puissance. Ils n'ont pas la foi qu'ils devraient avoir. Leur foi est bien faible. Malgré tout ce qu'ils ont vu, leur foi est bien faible. Nous allons d'abord nous concentrer sur les disciples et ensuite, plus tard, nous intéresser au Père et au Fils. Jésus veut apprendre quelque chose à ses disciples et à nous ce matin, ici présents. Sans la foi, nos actions sont inefficaces. Sans la foi, nos actions sont inefficaces. La cause de l'échec des disciples est un manque de foi. Nous pouvons affirmer ça grâce aux reproches de Jésus, mais aussi grâce à l'enseignement en privé que Jésus fait à ses disciples, quand il leur explique le pourquoi ils n'ont pas pu chasser ce démon. Jésus a dit à ses disciples que cette espèce-là de démon, particulièrement violente, ne peut sortir que par la prière et par le jeûne. Certes, beaucoup de manuscrits le disent que c'est aussi par le jeûne. Donc, en regardant ce reproche, en regardant cet enseignement en privé, on peut savoir ce que c'est réellement la foi. La foi, c'est une confiance totale en Jésus et une dépendance totale en Jésus. En Marc, chapitre 3, verset 15, Jésus les a envoyés avec le pouvoir de chasser les démons. En Marc 6, verset 13, nous pouvons lire qu'il chassait beaucoup de démons, appliquait de l'huile à beaucoup de malades et les guérissait. Cet échec a dû vraiment être douloureux, humiliant pour les disciples, parce qu'ils avaient déjà chassé énormément de démons. Mais ici, ils font face à un échec. Pourquoi ? Parce qu'ils ont mis leur confiance dans leur pouvoir de chasser les démons plutôt que dans celui qui leur a donné ce pouvoir. Ils ont mis leur confiance dans le pouvoir de chasser les démons plutôt que dans celui qui leur a donné ce pouvoir. Les disciples, face à ce démon particulièrement violent, devraient avoir cette foi pleine de confiance qui aide à être dans une attitude de totale dépendance de l'intervention de Dieu. La prière nous permet de communiquer avec Dieu. Et au travers de la prière, les disciples de Jésus, encore aujourd'hui, peuvent montrer toute leur confiance en Jésus et toute leur dépendance aussi. De nombreux manuscrits de la Bible mentionnent, comme je l'ai déjà dit plusieurs fois, au moins deux, que c'est la prière et le jeûne. Et si le jeûne est vraiment dans l'original, cela montre encore plus que les disciples devraient agir face à cette situation avec une dépendance totale en Jésus. Le jeûne nous rend humbles devant Dieu parce que la faim et la souffrance physique nous montrent de manière symbolique que nous n'avons pas de pouvoir en nous-mêmes, que nous n'avons pas de force en nous-mêmes. Nous avons besoin de Dieu. Le jeûne dans la Bible est souvent associé à la prière. On prie et on jeûne. Quand on jeûne, on prie, forcément. Et par exemple, on peut voir ça dans Néhémie. Néhémie, un prophète qui a entendu parler des ruines de Jérusalem. Et qu'est-ce qu'il a fait ? Il a prié et il a jeûné pendant plusieurs jours. On peut voir ça dans Néhémie chapitre 1. Le jeûne peut aussi accompagner des moments de demande de pardon profonde à Dieu. Nous pouvons voir cela dans Joël chapitre 2 verset 12. « Maintenant encore, déclare l'Éternel, revenez à moi de tout votre cœur, avec des jeûnes, avec des pleurs et des lamentations. » Le jeûne et la prière sont aussi un moyen de chercher la direction, la volonté de Dieu, comme nous avons fait récemment en Église, tous ensemble. Et nous pouvons voir que c'est comme ça que l'Église du 1er siècle agissait. Voilà ce qu'on peut lire dans Actes, chapitre 14, verset 23. « Ils désignèrent des anciens », un mot dans la Bible pour parler des responsables dans l'Église. Ils désignèrent des anciens dans chaque Église et après avoir prié et jeûné, ils les confièrent au Seigneur en qui ils avaient cru. Je ne vais pas continuer à citer des passages de la Bible qui nous parlent du jeûne, mais le jeûne, c'est quelque chose de tout à fait normal pour des disciples qui sont profondément convaincus de leur péché et qui ont cette conscience profonde qu'il faut qu'ils reviennent à Dieu. Le jeûne, c'est quelque chose de tout à fait normal pour des disciples qui sont confrontés face à des situations qui les dépassent totalement. Comme c'est le cas dans ce texte que nous avons lu, le jeûne, c'est quelque chose de tout à fait normal dans la vie des disciples qui cherchent la volonté et la direction de Dieu dans des situations vraiment particulières qui peuvent avoir un impact dans l'œuvre de Dieu de manière puissante. Le jeûne, c'est quelque chose que Dieu attend de nous aujourd'hui, et c'est quelque chose qu'on doit avoir en tête dans des situations bien particulières que la Bible nous montre, j'en ai parlé que trois. Ce que nous pouvons affirmer avec certitude, c'est que Jésus aurait aimé qu'ils agissent avec foi dans cette situation. Il aurait aimé qu'ils agissent en croyant que Jésus pouvait intervenir au travers d'eux. Il voulait qu'ils agissent en se disant qu'ils étaient totalement dépendants de Dieu, qu'ils ne pouvaient absolument rien faire par eux-mêmes. La force n'est pas en eux, la puissance n'est pas en eux, mais en Jésus seul. Jésus a dit à ses disciples, juste un peu avant le texte que nous venons de lire dans le chapitre 8, versets 34 et 35, « Si quelqu'un veut être mon disciple, qu'il renonce à lui-même, qu'il se charge de sa croix et qu'il me suive. En effet, celui qui voudra sauver sa vie la perdra, mais celui qui la perdra à cause de moi et de la bonne nouvelle la sauvera. » Je vais voir juste un peu. Ce texte nous dit que être disciple de Jésus, être chrétien, c'est tout simplement accepter que nous ne contrôlons absolument rien. Nous devons agir dans une totale dépendance de Jésus. C'est lui le maître et moi son disciple. Un des conseils les plus précieux que j'ai eu dans ma vie est le suivant. Ne te préoccupe pas de la largeur de ton service pour Dieu, mais de la profondeur de ta relation avec Christ. Ne te préoccupe pas de la largeur de ton service pour Dieu, mais de la profondeur de ta relation avec Christ. Charles Spurgeon, un prédicateur anglais que Dieu a utilisé puissamment, a écrit « Passez maître dans l'art de la prière. Vous n'amènerez pas d'âme à Dieu si vous n'allez pas vous-même à lui. Allez chercher toutes les armes de guerre à l'arsenal de la communication avec Christ. Passez du temps avec Jésus. » Waouh, ça peut être un peu comme ça, dit « Waouh, mais c'est ça !» Jésus est en train de leur dire ça. Encore aujourd'hui, Jésus dit à ses disciples au travers de ce texte que si nous voulons faire des actions qui sont efficaces pour dans son œuvre, et bien que nous devons vraiment dépendre de Jésus. Si nous voulons faire des œuvres qui ont une portée d'éternité, nous devons dépendre plus que tout de Jésus. Par nous-mêmes, c'est impossible. Si tu es un disciple de Jésus, si tu es vraiment chrétien, je te le dis parce que ça m'est arrivé déjà plusieurs fois, ne te confie pas dans tes dons, ne te confie pas dans tes capacités, ne te confie pas dans ta personnalité, confie-toi dans celui qui t'a donné tout cela, Jésus. C'est facile. Une fois qu'on commence à faire plein de choses, on s'habitue à une activité. Et en fait, on ne compte plus sur Dieu. Mais en fait, dans tout ce que nous faisons dans l'Église, dans tout ce que nous faisons en tant que disciples, de partout où nous allons, nous devons dépendre plus que jamais de Jésus. Le début de notre vie avec Jésus, il a commencé par la foi et il doit continuer par la foi. Une foi vraiment profonde en Jésus. Jésus veut avant tout, que nous ayons une confiance de plus en plus profonde en lui grâce à une intimité de plus en plus profonde avec lui. Nous ne devons pas juste connaître des choses sur Dieu, nous devons connaître Dieu lui-même. Nous devons vraiment connaître ce Dieu pour que notre foi soit vivante. Pour que notre foi soit vraiment vivante, pour que nous agissons dans ce monde en étant utiles. Que nous agissons de manière utile dans ce monde, que nous agissons vraiment de manière qui va impacter l'histoire, qui va impacter l'œuvre de Dieu. Avons-nous vraiment foi dans ce Jésus puissant ? Avons-nous réellement la foi dans ce Jésus puissant, tellement puissant que l'impossible peut devenir possible? Et ce n'est pas juste une belle phrase, c'est vraiment ce que le texte dit. La foi nous permet de saisir l'impossible. Après avoir vu que sans la foi, nos actions sont inefficaces, en nous concentrant vraiment sur les disciples, nous allons maintenant voir que par la foi, l'impossible devient possible en nous concentrant sur le Père et l'enfant. Le démon qui dominait cet enfant était particulièrement violent. Jésus nous dit que c'est une espèce de démon particulièrement violente. Je ne vois pas tous les jours des démons comme celui-là, qui dominent vraiment des personnes. Et je suppose que vous non plus, qu'aujourd'hui vous ne voyez pas forcément tous les jours des démons comme ça, qui dominent totalement des personnes. Mais Satan et ses démons sont aujourd'hui encore à l'œuvre. Et il est très dangereux de ne pas en être pleinement conscient. La Bible, dans la première lettre de Pierre, au chapitre 5, verset 8, nous dit « Soyez sobres, restez vigilants, votre adversaire le diable rôde comme un lion rugissant, cherchant qui dévorer. » Aujourd'hui, Satan et ses démons dominent encore des personnes, comme nous pouvons le voir dans ce texte. Mais sachez qu'il utilise de nombreuses tactiques pour dominer et influencer des vies. Celle-là en est une, mais il utilise d'autres tactiques, parfois qui sont tout aussi destructrices. Une des manières puissantes de Satan d'agir aujourd'hui est tout simplement d'orienter les regards sur nous-mêmes plutôt que sur Dieu. Une autre, à mon avis, qu'il utilise puissamment en Occident, en France, c'est de tout simplement ne pas croire qu'il existe. Et vous savez quoi? Cela affecte parfois même nos églises. Dans le livre « Tactique du diable » de C.S. Lewis, ou de manière originale, il montre un démon qui est expérimenté, qui est en train de former un démon un peu novice, quoi, dans l'art de la tentation. Voilà ce qu'on peut lire. Quand les hommes fixent toute leur attention sur la personne de l'ennemi, nous sommes vaincus d'avance. Mais il y a un moyen de les en empêcher. La façon la plus simple, c'est de détourner de lui leur regard et de les orienter sur eux-mêmes. Voyez, des démons, un peu, qui sont en train de parler de manière originale dans ce livre. Et ils leur disent, mais tu sais quoi? Mais franchement, si tu veux qu'on gagne, en tout cas que tu ne veux pas que Dieu gagne, c'est-à-dire l'ennemi, en fait, c'est simple. Détourne leur regard de Dieu et fixe-les sur eux-mêmes. Là, c'est sûr, on va gagner. Et donc, c'est vraiment... Vous voyez, Satan, il a plusieurs manières d'agir. Jésus l'a décrit en Jean 8, verset 8, comme le meurtrier depuis le commencement, comme le père du mensonge. Donc, franchement, il sait comment agir. En fonction de là où nous sommes. L'Église ne croit pas en des démons et en Satan. La France n'y croit pas vraiment. Ce n'est pas grave. On va utiliser d'autres tactiques. Ne vous inquiétez pas. Une des manières puissantes, c'est vraiment ça. C'est qu'il peut aussi nous faire tout simplement oublier qu'il n'existe pas. Voilà ce qu'on peut lire dans « Tactique du diable » de C.S. Lewis. Encore. S'il y avait le moindre indice qu'il soupçonne ton existence, présente-lui un personnage en pantalon collant rouge. Convaincu par toi qu'il ne peut pas croire à de pareilles niaiseries, ce moyen de créer la confusion est consigné dans notre méthode classique, il finira par comprendre qu'il ne peut pas croire en toi. Satan cherche à influencer nos vies. Satan cherche à dominer la vie de personne. Et peut-être que toi, c'est pas comme il le fait pas comme cet enfant. Mais il utilise peut-être des stratégies, comme je l'ai déjà dit, des tactiques encore plus qui sont tout autant destructrices, en fait. L'amour de l'argent, un orgueil qui rejette Dieu. Pour faire simple, tant que nous sommes sur le trône et pas Dieu, Satan gagne. Et il gagne à coup sûr si nous croyons absolument pas qu'il existe. Le père de l'enfant, lui, il a bien compris qu'il pouvait rien faire face à ce démon. Et il a compris aussi que les disciples, ils n'avaient pas vraiment non plus le pouvoir de chasser le démon. Et qu'est-ce qu'il a fait? Il est allé vers Jésus. « Si tu peux faire quelque chose, viens à notre secours aie compassion de nous. » La réaction de Jésus est surprenante. « Si tu peux, tout est possible à celui qui croit. » Ensuite, après cette réaction surprenante de Jésus, nous avons une des plus belles déclarations de foi, parce que c'est une des plus authentiques. « Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. » Le Père, il est un peu en train de dire « Je veux croire en toi, mais c'est si difficile. » Il y a une partie de moi qui dit « Oui, tu pourras. » Et une autre partie qui dit « Non, tu ne pourras pas. » Fais en sorte qu'en moi, tu n'entendes que ce « oui ». Oublie mes doutes. Fais comme si j'avais une totale confiance et une totale dépendance de toi. Tue mon doute. Pardonne mon incrédulité. Augmente ma foi. C'est vraiment une belle déclaration de foi parce qu'elle est totalement authentique. Hudson Taylor, un homme qui a été utilisé puissamment par Dieu comme missionnaire en Chine au XIXe siècle, il a dit « Nous n'avons pas besoin d'une grande foi, nous avons juste besoin d'avoir la foi dans un grand Dieu. Nous n'avons pas besoin d'une grande foi, nous avons juste besoin d'avoir foi dans un grand Dieu. » Est-ce que, comme moi, ta foi est bien faible? Est-ce que tu es rempli de doutes? Ne fixons pas nos regards sur la faiblesse de notre foi. Fixons notre foi sur la grandeur de notre Dieu. La question n'est pas de savoir si tout est possible pour Jésus. La question est de savoir si toi, tu y crois, même juste un peu. Jésus a fait un reproche sur l'incrédulité qu'on peut trouver dur, mais ce reproche n'a pas duré longtemps. Tout de suite après, il montre sa patience, son amour. Comment ? Il montre sa grande puissance malgré une petite foi. Il est possible aujourd'hui encore d'aller vers Jésus et de dire « Je crois, Seigneur !» Viens au secours de mon incrédulité. Il est possible de confier sa vie, de donner sa vie à Jésus en lui disant « Mais pardon pour mon incrédulité. Oui, pardon pour ma faiblesse. Pardon de regarder à ma faiblesse plutôt que ta puissance. » C'est le but de Satan, qu'on se fixe sur nous plutôt que d'aller vers Jésus. Regardez comme le démon, il agite violemment cet enfant. Pourquoi ? Parce qu'on va vers Dieu. Aujourd'hui, Jésus peut manifester sa puissance dans ta vie d'une manière vraiment puissante. Il peut transformer ta vie en te libérant de l'influence de Satan. Si tu vas vers Jésus. Pourquoi ? Parce que Jésus à la croix, il a vaincu Satan et ses démons. La croix est le podium de Jésus. À la croix, Satan a été vaincu. En Colossiens, chapitre 2, verset 15, il est écrit que Jésus a dépouillé les dominations et les autorités et les a données publiquement en spectacle en triomphant d'elles par la croix. L'échec qui nous est raconté dans ce texte n'est pas un hasard dans le plan de formation de Jésus pour ses disciples. Jésus leur avait déjà annoncé à tous les 12 au moins une fois qu'il allait mourir et ressusciter et qu'il devait apprendre à dépendre complètement de Jésus. Ils devaient mourir à eux-mêmes pour le suivre réellement. Aujourd'hui, Jésus nous dit à nous la même chose. Le suivre, c'est dépendre totalement de lui, dans le moindre détail de nos vies et surtout face à un ennemi qui nous en veut, Satan. Nous devons dépendre de Jésus si nous voulons qu'il agisse en nous et au travers de nous. L'Église doit dépendre de Jésus si elle veut que Dieu agisse en elle et au travers d'elle. C'est essentiel, c'est ce que Jésus voulait apprendre à ses disciples. Croyons en Jésus si nous voulons voir sa puissance, car sans la foi, nos actions sont totalement inefficaces. Tournons les regards vers Jésus plutôt que de les orienter sur nous-mêmes. Car si nous ne faisons pas ça, face à Satan et ses démons, nous allons échouer à coup sûr. Par contre, par la foi, l'impossible devient possible. Pourquoi ? Ce n'est pas notre foi qui est forte. Ce n'est pas notre foi qui est grande. La question n'est pas de savoir quel est le degré de ta foi. La question est de savoir en qui tu mets ta foi. Est-ce dans ce grand Jésus puissant ? Est-ce dans ce Jésus par lequel l'impossible peut devenir possible? Je crois que c'est vraiment ce que ce texte veut nous apprendre ce matin. Et je vous invite vraiment à ce qu'on imite vraiment la foi authentique de ce Père. Prions ensemble. Je crois, Seigneur, viens au secours de mon incrédulité. Pardonne mon incrédulité. Pardonne-moi de ne pas vraiment comprendre bien souvent qui tu es. Aide-moi à vraiment dépendre totalement de toi. Aide-moi à vraiment te remettre totalement ma vie. Merci vraiment parce que à la croix, tu as vaincu Satan et les démons. Merci vraiment de nous libérer aujourd'hui de l'influence de Satan. Aide-nous à avancer dans le combat, dans ta puissance, par ta puissance. Merci parce que tu es vainqueur. Amen. On va chanter un chant. Je demande au groupe de musique de s'approcher. Il est Seigneur.